L'Atelier des médias.
C'était il y a quelques jours, l'équipe de l'Atelier des médias était à Tunis, en Tunisie, pour rencontrer ses contributeurs et contributrices du site arablog.org. Parmi elles, une jeune femme pleine d'énergie et de détermination.
Je suis Mehej Jouini, je suis blogueuse et en même temps je suis assistante technique à la campagne de l'Union africaine pour mettre fin au mariage des enfants. Mon travail est tout à fait différent de ce que je faisais comme passion, c'est le blogging et c'est l'écriture. Mais je suis devenue blogueuse, ce n'est pas parce que vraiment je suis très intéressée par le blogging, non. Parce que je me suis trouvée dans l'obligation d'écrire mon journal librement, indépendamment de tous les journaux. Pourquoi ? Parce que moi, je fais partie de ce qu'on a appelé et ce qu'on a donné le nom, la minorité berbère en Tunisie. Et j'ai des idées dont on l'a considéré comme des idées laïques, parce que moi, je me trouve une citoyenne tunisienne, fière de ses origines, berbérophone, qui s'identifie comme une africaine, comme une berbère, méditerranéenne, ouverte à tout le monde. Je crois en toutes les religions. Je suis déiste, comme Voltaire. Et je suis croyante, comme ma grand-mère. Donc, ces idées-là ne riment pas avec la politique éditoriale des journaux nationaux tunisiens. Donc je me suis trouvée dans l'obligation d'écrire loin de ces gens-là, d'écrire loin des restrictions, d'écrire contre ces lois qui cherchent à me donner un stéréotype tellement typique, genre femme, arabe, musulmane, tu dois écrire en ceci, en cela, il ne faut pas que tu touches à la religion, il ne faut pas que tu parles de ton corps, ne parle pas de tes origines, on est tous arabes, point barre. Non, je n'ai jamais senti ça. Donc du coup, j'ai utilisé ma plume pour écrire tel que je suis.
Je vous avoue que les paroles de Maha m'ont ému, de même que nous ont ému les mots, les attitudes, la présence des autres blogueurs et blogueuses de notre plateforme. Il existe dans le monde arabe des voix modernes, libres, innovantes, et pendant 2 ans, nous avons œuvré modestement pour faciliter leur diffusion.
Arablog, parce que c'était une plateforme arabophone au début, et j'étais en contact avec beaucoup des blogueurs du monde arabe et je me suis présentée telle que je suis. Je n'ai jamais eu de restrictions avec le blog et même j'ai écrit des articles en tamazight avec la langue autochtone et je l'ai publié et les articles étaient sur la page d'accueil. Ma photo avec les vêtements berbères était sur la page d'accueil et même le titre Yaoumiyat Jabali Moutamar est un journal d'une montagnarde rebelle.
Maha parle d'Arablog au passé car l'avenir de cette plateforme est compromis. Nous n'avons plus les moyens de l'animer, nous en sommes bien tristes. Il reste quelques espoirs, mais ils s'amenuisent de jour en jour. Merci à celles et ceux qui ont œuvré pour l'existence de ce projet. Comme tous ceux que nous menons au sein de l'atelier, leur intérêt réside dans les interactions, les échanges, les rencontres. Tout ce qui a été fait est acquis et c'est ce qui importe. Je suis Ziad Malouf, vous écoutez l'Atelier des médias, un projet co-porté par Simon Decreuse, Manon Mella, Mathias Virilli, Camille Deloche et Suzy Georges, notre super stagiaire qui a passé 2 semaines à l'atelier. Elle y était comme un poisson dans l'eau. Bravo et merci à toi, Suzy.
À la abouab 2017, ou la tazal qawalin kashf al-udriya wa ithbat al-sharaf sariyat al-maf'ul fi Tunis al-hadatha. فأجسادنا حسب أصحاب القرار لا تحمل مقومات الكرامة الإنسانية ولا تحمل حقوق احترام الجسد وتقديس المحرمات. أكثر من نصف قرن مرت على صدور مجلة الأحوال الشخصية وقد تمر قرون أخرى ولا يزال شعبي العزيز يناقش أمر إمكانية الزواج بامرأة ثانية أو ثالثة ولا زلنا نستمع لتبريرات لجرائم الاغتصاب وانتهاك حقوق النساء ولضربهن بتعلة الفحولة والرجولة والذكورة وكيد النساء.
Nous partons loin du monde arabe dans l'atelier aujourd'hui puisque l'entretien que nous vous proposons d'entendre concerne l'Asie de l'Est et plus précisément Taïwan. Depuis 2 ans, cette île-État située au sud-est de la Chine vit une expérience hors norme de démocratie numérique. C'est la thèse que défend notre invitée, l'informaticienne et militante Audrey Tang. Elle était de passage à Paris il y a quelques semaines. Nous en avons profité pour la rencontrer.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf. Simon de Creuse.
Et vous.
Bonjour.
Vous êtes une activiste taïwanaise qui est spécialisée dans l'utilisation du numérique. On va d'abord dire quelques mots sur vous. Vous pouvez commenter. Vous êtes née en 1981. Vous avez donc 35 ans. Mais vous vous présentez comme une retraitée.
Oui, j'ai pris ma retraite il y a 2 ans environ, quand j'ai migré du secteur privé à celui de la société civile. Je l'ai fait parce que j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie des technologies de l'information avec une carrière très entrepreneuriale. Et après 20 ans à faire plus ou moins la même chose, j'ai décidé qu'il était peut-être temps de laisser la place aux jeunes sur le marché et d'explorer plus en profondeur l'univers de la société civile.
Donc vous avez travaillé 20 ans, ça veut dire que vous avez commencé à travailler très 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 jeune.
Pas si jeune, je devais avoir 14 ou 13 ans. Ça va, c'est légal.
C'est légal, mais normalement on commence vers 23 ans, 24 ans. Donc vous avez un parcours déjà particulier.
Non, enfin, c'était l'époque où Taïwan a eu accès à l'Internet. C'était en 1994, comme pour le reste du monde. Le World Wide Web venait juste d'être inventé. J'ai commencé à travailler en ligne sans me soucier de mon âge. À vrai dire, les gens qui étaient sur le web et au sein du World Wide Web Consortium ne connaissaient pas mon âge. Nous étions juste des pairs à pairs, des collaborateurs. Comme le reste du monde, Taïwan est entré dans le World Wide Web très rapidement, quand il a été inventé en 1994 par Tim Berners-Lee. Une fois le World Wide Web inventé, on se posait beaucoup de questions sur notre capacité à transférer le savoir de l'histoire humaine, qui depuis 2000 ans avait été archivé sur papier, sur ce nouveau médium. Beaucoup plus de questions ont émergé quand les gens ont découvert qu'en mettant des informations papier sur Internet, elle devenait complètement autre chose. Elle fonctionne comme une sorte de force gravitationnelle qui attire les gens et forme une communauté. Un type de communauté que nous n'avions jamais vu auparavant. Pour moi, cette communauté, qui comprenait des chercheurs du monde entier, originaires de peut-être 60 pays différents et parlant 70 langues, était beaucoup plus intéressante qu'une école ou même qu'une université. Mon choix était vraiment, vraiment facile à faire.
Donc vous avez arrêté l'école à 12-13 ans pour apprendre sur le web, sur Internet.
C'est parce que beaucoup de gens publiaient leurs pré-publications, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer leur article au journal, ils le publiaient d'abord sur le web. C'est ce que tout le monde faisait, parce que c'était complètement nouveau et les gens étaient vraiment excités par ça. J'ai découvert que peu importe ce que j'apprenais à l'école ou même à l'université, ça avait toujours 10 ans de retard, parce que ça mettait 10 ans pour que les pré-publications des journaux scientifiques et autres arrivent jusque dans les programmes scolaires et universitaires. En fait, j'avais l'impression de vivre 10 ans dans le futur juste en collaborant avec les chercheurs sur Internet.
Et qu'est-ce qui vous intéressait à l'époque ?
Quand j'étais jeune, j'étais principalement intéressée par la poésie et la musique, qui sont très liées l'une à l'autre. Ensuite, parce que le chinois et le taïwanais sont deux langues tonales, dans la mesure où nous parlons comme les gens chantent et qu'il y a une certaine mathématique dans ces langues, j'ai composé de la poésie et de la musique très jeune et j'ai toujours vu l'ordinateur comme une feuille blanche pour écrire ces musiques ou ces poésies. Quand je suis arrivée sur Internet, les premiers centres d'intérêt que j'avais étaient les langages computationnels, c'est-à-dire faire comprendre aux ordinateurs le langage humain, et aussi la programmation, qui est la démarche inverse, c'est-à-dire faire comprendre aux humains comment l'ordinateur était programmé, comme une sorte de pont à double sens entre la machine et l'humain.
Donc vous vous êtes spécialisé dans la programmation, apprendre comment demander à une machine de faire telle ou telle chose ?
En partie, oui. Mais l'autre partie consistait à faire comprendre aux ordinateurs le langage humain. Et que cette intelligence artificielle apprenne non seulement les mots eux-mêmes, mais aussi pourquoi nous parlons de tel ou tel sujet, le contexte, la culture entière. Je pense que c'est la partie la plus intéressante, mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre.
Et qu'est-ce que vous avez fait dans ces domaines alors ?
Très tôt, j'ai collaboré avec un auteur que j'aime beaucoup, Douglas Hofstadter, qui a écrit ce livre intitulé Gödel, Escher, Bach, et qui est un chercheur éminent de l'intelligence artificielle et aussi un traducteur. Je crois que c'était en 1997 ou 1998 que je l'ai contacté. À ma grande surprise, il parle chinois.
Et vous parlez allemand, vous?
Oui, donc c'est plus facile pour moi pour communiquer. Il apprenait aux ordinateurs à comprendre l'écriture humaine et travaillait aussi sur la question de la traduction. J'ai traduit un des poèmes que sa femme avait traduit. On avait une correspondance sur la traduction automatique et ce genre de choses. On n'a pas vraiment publié d'article, juste une expérience d'échange de mails avec l'un des chercheurs les plus éminents de l'intelligence artificielle. Il était aussi enthousiaste que moi. On parlait chacun la langue de l'autre et ainsi de suite. Ça a créé une culture différente comparée à la culture universitaire.
J'ai lu à plusieurs endroits que vous aviez lancé plusieurs startups pendant votre activité professionnelle avant votre retraite, et la première alors que vous étiez encore un adolescent.
La première start-up dans laquelle je me suis investi était une maison d'édition qui s'appelait The Informationist. On m'avait demandé, comme j'étais une des plus jeunes auteurs, d'écrire un livre appelé Road to Cyberspace, qui explique la trajectoire par laquelle on en vient à apprendre le web. C'est devenu une maison d'édition plutôt intéressante. On avait beaucoup de collaborations, mais j'étais juste une auteure à l'époque. Puis la maison d'édition a pensé, peut-être qu'il est temps d'aller sur le marché d'Internet aussi, puisque nous sommes une marque identifiée quand il s'agit d'apprendre aux gens à se servir d'Internet. J'ai aussi travaillé sur un moteur de recherche comme celui de Google, mais qui indexe tout. Il faut se rappeler que c'était à peu près à la même époque qu'AltaVista et avant tous les autres moteurs de recherche. C'était un des premiers moteurs de recherche chinois. Par la suite, j'ai participé à un projet de site d'enchères comme eBay et d'autres types de e-commerce, et aussi sur les médias sociaux, et ainsi de suite. Tout ça, c'est en 1995-1996.
Vous êtes également connu pour avoir coordonné un projet qui s'appelle Pugs. Alors, je ne sais pas si vous pouvez expliquer au grand public ce qui signifie. C'est un projet qui est lié à un langage informatique, mais peut-être que vous allez y arriver.
C'est en fait assez facile à expliquer. J'ai travaillé sur Pugs, qui est une nouvelle exécution, une remise à niveau du langage Perl. Le langage Perl est un des premiers, si ce n'est le premier, de ce que nous appelons un langage de script, qui est le langage utilisé pour construire des sites web. Un langage de script est un langage de programmation, comme un instrument. Pensez à la façon dont les gens construisent, par exemple, une cathédrale ou un très grand bâtiment. D'habitude, les architectes professionnels utilisent des outils très professionnels et c'est très dur pour eux de traduire leur vision architecturale à des gens qui n'ont jamais rien vu de tel auparavant. Mais les langages de script sont tels que les gens peuvent les utiliser comme des outils quotidiens. C'est comme faire des meubles en employant seulement son propre bois ou son atelier. C'est d'ailleurs de là que vient le mot « hacker ». Ça signifie des gens qui peuvent couper leur bois et faire leur propre meuble, leur propre maison. Il n'y a plus besoin d'être un architecte professionnel entraîné. Avec Perl et d'autres langages de script, vous pouvez juste utiliser vos outils quotidiens et travailler dans un système existant en y ajoutant un bit à la fois, mais au final, ça finit quand même par devenir une cathédrale. Ça nous permet de construire de très larges systèmes sans qu'une seule personne ait une vision, ou soit designer de métier ou quelque chose comme ça. C'est une démocratisation de la programmation informatique. Un des descendants de Perl est Python, puis Ruby, puis JavaScript. Maintenant, tous ces langages sont utilisés par des amateurs partout dans le monde. Avec ce langage, ils font le web mondial d'aujourd'hui.
Pendant que vous êtes en train de parler, vous avez une tablette devant vous et un crayon. Vous êtes en train d'écrire ou de dessiner des choses. Qu'est-ce que vous faites ? Je ne vois pas du tout l'écran.
Je suis en train de faire de la calligraphie.
You're showing me your screen. Vous me montrez votre écran où on voit donc des caractères. J'arrive pas à lire. Je sais pas si c'est des caractères latins ou chinois. C'est entre les deux et des flèches.
Oui, j'ai toujours travaillé avec un stylo et du papier. En fait, avant d'avoir un ordinateur, c'est comme ça que je programmais. Même quand j'ai eu un ordinateur, j'ai continué d'utiliser un stylet informatique, depuis le Palm Pilot, en passant par le Zaurus et toute autre forme d'informatique basée sur le stylet. Je préfère ça parce que si vous avez seulement un clavier quand vous tapez quelque chose et qu'ensuite vous allez vous coucher, quand vous vous réveillez, vous ne vous souvenez pas des émotions que vous aviez quand vous tapiez ces mots, parce qu'ils ont perdu toutes les informations non viables. Quand je prends des notes ou que je fais de la calligraphie, je capture les sentiments exacts que j'ai quand j'écoute votre question. Ça aide à apporter cette dimension plus humaine dans mes réponses et mes dessins.
Donc vous prenez des notes, en fait, à calligraphier, donc avec votre propre écriture sur votre ordinateur, vous les enregistrez, donc là vous faites oui de la tête. Mais qu'est-ce que vous avez écrit, par exemple, sur le dessin ou la note que vous m'avez montré? Je n'arrivais pas à lire si c'était du latin ou des caractères chinois.
En fait, c'est plus ou moins de la calligraphie. Parce que la culture taïwanaise compte 2000 ans de calligraphie sur papier, c'est la culture la plus ancienne de calligraphie, beaucoup des mouvements calligraphiques ont arrêté d'être inscrits. Ils sont devenus ce que tout le monde reconnaît aujourd'hui comme des émojis. C'est-à-dire qu'ils expriment exactement le contenu émotionnel de nos écrits. Sur l'écran que je viens de vous montrer, le mot « pearl » est en écriture latine, mais tout le reste est un mix d'émojis, de mémo ou de choses comme ça.
Vous vous présentez, ça c'est quelque chose qu'on vous demande beaucoup de commenter, comme un anarchiste, comme une anarchiste conservatrice. Ce sont deux notions qui peuvent paraître opposées. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Quand les gens pensent à l'anarchie, généralement, ils songent à une utopie, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais si vous pensez à l'idée d'utopie, ce que ça veut vraiment dire, c'est que ce n'est pas un lieu spécifique. U signifie non, topos signifie espace. C'est exactement nulle part. Mais c'est exactement ce qu'est Internet. Internet ne vit pas dans un ordinateur. Internet ne vit pas dans une machine. Internet vit dans la communication entre les machines selon des protocoles établis. Tout le monde peut réviser ou améliorer le protocole, être plus ou moins d'accord avec ses règles. Mais tant qu'il y a une sorte de consensus, Internet fonctionnera toujours sans entité de contrôle centralisée. Cela correspond exactement à la définition de l'anarchie. C'est la définition originelle de l'anarchie quand les philosophes ont énoncé le mot pour la première fois. Et donc, l'Internet, quand il a été conçu au départ, avait une nature anarchique. Il a ensuite été intégré à la structure de gouvernance qu'est l'Internet Society dans les années 80 et 90. Quand je dis conservatrice, j'entends par là qu'on a une tradition. La tradition fonctionne très bien et doit s'adapter avec le temps, bien sûr, mais nous devons le faire très prudemment et sans sacrifier cette tradition de l'anarchie. Donc j'ai quelque chose que j'aimerais conserver. C'est ça que je veux dire.
Parce que à vos yeux, l'utopie ou l'anarchie de l'Internet est en danger ?
Je ne dirais pas qu'elle est en danger, parce que, de toute évidence, l'Internet fait aujourd'hui partie de notre vie quotidienne. La civilisation humaine survivrait probablement, mais avec beaucoup de difficultés, si nous retirions l'Internet à tout le monde. Donc le réseau n'est pas en danger, comme pourrait l'être une espèce en danger. Mais la façon dont l'Internet était gouverné, son modèle de gouvernance qu'on peut qualifier d'anarchiste, est lui en danger, car en compétition avec beaucoup d'autres modes de gouvernance. Par exemple, nous avons l'approche multilatérale qui considère qu'un État souverain représente toutes les structures et toutes les personnes d'un pays. Nous avons aussi l'approche multipartite qui dit que toutes les espèces, pas seulement humaines, qui sont menacées par un réchauffement de 2 degrés Celsius sont en fait connectées, peu importe le pays où elles se trouvent. Les gens ont beaucoup, beaucoup de façons de gouverner leur vie. Ces différents types de gouvernance peuvent cohabiter ou sont parfois en compétition. Je ne dirais pas que le modèle anarchiste met les autres en danger. C'est un des nombreux modèles que les gens utilisent pour gouverner leur vie. En ce sens, ça vaut le coup de le conserver, mais je ne dirais pas que ça devrait être un modèle dominant par rapport à n'importe quel autre modèle.
Courte pause dans l'atelier, nous nous retrouvons dans quelques instants, toujours avec Audrey Tang.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec la militante et hackeuse taïwanaise Audrey Tang. Elle était de passage à Paris il y a quelques semaines. Elle en a profité pour partager lors de rencontres publiques sa vision de la politique taïwanaise et de ce qu'elle qualifie d'expérience pionnière de démocratie numérique que vit ce pays de l'Est asiatique.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf. Simon de Creuse.
Et vous.
Depuis quelques mois, au moins depuis quelques mois, vous multipliez les entretiens, les conférences, notamment pour parler de l'évolution de la démocratie à Taïwan. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, de votre point de vue, ce qui s'est passé depuis à peu près 2 ans à Taïwan ?
Bien sûr. Je parle toujours du mouvement GovZero, qui s'écrit G0V.TW, qui est une initiative de hacking civique entamée en 2012. En fait, tous les sites gouvernementaux taïwanais finissent par gov.tw. L'idée, c'est simplement qu'en changeant le O de Gov en 0 sur son navigateur, on arrive sur une sorte d'administration ou de gouvernement fantôme qui montre les mêmes informations mais d'une manière plus lisible, plus agréable, avec des visualisations interactives. C'est comme une super structure qui englobe toutes les initiatives de hacking civique à Taïwan. En 2014, il y a eu une occupation du Parlement à Taïwan qui s'appelait le Mouvement Tournesol. Le mouvement a été formé par des étudiants qui pensaient qu'il n'était pas constitutionnellement censé pour Taïwan de considérer Pékin comme une ville du territoire national. Grâce à cette pirouette constitutionnelle, cela autorisait le gouvernement à signer tout accord commercial avec la Chine sans consulter le Parlement. L'occupation a duré 20 jours. Les 20 jours ont été très spéciaux dans l'histoire des Occupy parce que notre occupation avait un objectif démonstratif. Les étudiants étaient là pour protester, mais aussi pour montrer aux députés comment utiliser les nouvelles technologies pour délibérer de manière réellement démocratique. Une méthode que les représentants du peuple peuvent par exemple utiliser pour des accords commerciaux avec Pékin. C'est donc un moyen de mettre la barre de la démocratie plus haut encore. Une manière d'encourager le législateur à impliquer les citoyens avec plus de pédagogie et de participation. GovZero a servi d'outil à l'échelle nationale et internationale pour la traduction et la logistique de ce mouvement d'occupation. L'idée était d'atteindre au moins la moitié de la population à Taïwan. Et d'ailleurs, 500 000 de personnes ont manifesté dans les rues en soutien à cette cause. Après cela, le paysage politique tout entier a changé. Beaucoup d'analystes disent que nous sommes désormais dans une politique post-parti à Taïwan. Par exemple, le maire de la capitale, Ko Wen-je, était un chirurgien et pas un politicien. Mais il a été élu avec des chiffres records et n'est adhérent d'aucun parti politique.
Il a été élu fin 2014.
Oui, juste après, Simon Chang a été nommé vice-premier ministre. C'était un ingénieur Google qui n'appartenait lui non plus à aucun parti. Depuis, il est d'ailleurs devenu premier ministre. Toujours dans le même esprit, la nouvelle présidente élue, Tsai Ing-wen, a nommé 2 indépendants au poste de vice-président et premier ministre, Chen Chien-jen et Lin Chuan. Ils n'appartiennent à aucun parti. La situation est telle que tous les plus hauts dirigeants actuels du pays sont désormais libérés des contraintes liées à un parti politique. C'est pourquoi le premier ministre, Simon Chang, a pu passer le pouvoir à son successeur, lui aussi indépendant, Lin Chuan, en disant que la passation ne se fait pas d'un parti à un autre.
Ce que vous expliquez, c'est que les partis ne sont plus au centre de la vie politique à Taïwan, que la transparence à laquelle vous avez participé avec le mouvement GovZero fonctionne réellement et que les gens sont impliqués et que c'est ça qui est au cœur de la vie politique à Taïwan aujourd'hui.
Oui, c'est exactement ça. Ça a aussi changé notre positionnement international parce que Taïwan, comme vous le savez sûrement, n'est pas reconnu comme un pays par l'ONU. Taïwan est un lieu, c'est une sorte de société société civile de 23 millions de personnes. Mais il y a aussi certains avantages à cela, parce que du coup, on peut utiliser des technologies civiques ou des communautés civiques du monde entier et être solidaire avec tous les hackers civiques autour du monde, pas en tant que nation souveraine, mais comme une sorte de post-nation.
Dans la critique habituelle du mouvement de la civic tech, comme on dit, ou de la transparence ou du gouvernement ouvert, il y a le fait qu'on a du mal à impliquer la population, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il n'y a plus vraiment de population impliquée, mais une petite frange qui se spécialise dans la participation, etc. Comment vous pouvez lutter contre ça ou comment vous gérez ce phénomène ?
On peut répondre à cette question de deux façons. L'une consiste à dire que les gens trouvent le monde réel, par exemple, leur famille, leur vie de tous les jours, se promener dans la rue, aller faire ses courses, discuter avec ses voisins, plus intéressant que de participer à la politique. L'autre façon consiste à dire que les gens qui ont déjà ces téléphones et ces appareils trouvent qu'aller sur Facebook ou poster des photos de chats sur Instagram sont des choses plus intéressantes que de participer à la politique. Il faut y répondre à partir de deux approches, de deux cultures très différentes. Pour la première, c'est en grande partie dû au fait que la culture numérique n'a pas répliqué tout ce que l'analogique ou la culture papier ont à offrir. Comme je vous l'ai montré, je peux faire de la calligraphie sur cette tablette. C'est ce qui se fait de plus récent, là, cette année. Avant ça, on ne pouvait même pas capter l'intention calligraphique de la personne qui écrivait. C'est naturel que les gens trouvent la culture papier plus attractive ou plus intéressante, c'est comme ça. Mais avec la combinaison de l'intelligence artificielle, de la compréhension des intentions et des émotions humaines et les technologies de la réalité virtuelle, on peut répliquer l'expérience d'immersion. Par exemple, je suis allée à Disneyland le week-end dernier. Il y a cette expérience de réalité virtuelle de Ratatouille, où les gens voient depuis le point de vue d'une souris ou d'un rat. Le rat est poursuivi tout autour de la cuisine et ainsi de suite. C'est comme les autres espaces de Disneyland, mais on ne bouge pas pour de vrai. Tout se passe au même endroit et ça marche par réalité virtuelle. Cela veut dire que les softwares, les logiciels, sont désormais presque aussi bons que les hardwares, les machines, pour créer un monde fantastique. Dans ce monde de rêve, les gens peuvent se poser et regarder un aéroport sur le point de se construire ou un territoire sur le point d'être développé et ensuite délibérer sur la question. C'est facile en fait, parce que la technologie est presque là. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus dur ceci dit. Les digital natives, les enfants du numérique, trouvent ça beaucoup plus intéressant de se regarder dans le miroir, d'utiliser des selfie sticks, plutôt que de partager leurs idées ou émotions avec d'autres gens. Pour les digital natives à Taïwan, nous avons moins ce problème, parce que c'est la même génération qui a voté pour les premières élections présidentielles en 1996 et qui a participé à la création du web mondial et des technologies numériques. C'est à vrai dire la même génération de gens qui ont participé aux deux innovations et qui ont fait de nous un laboratoire d'expérimentation de nouvelles élections démocratiques. Pour nous, 20 ans de démocratie représentative, 20 ans de démocratie directe, ou même d'anarchie sont vraiment comparables. On peut les mêler et les associer, et c'est ça la principale attraction pour les hackers civiques. En Europe, bien sûr, l'Estonie est encore plus attractive parce que le pays a été fondé après Internet. Tout le monde, même les plus vieux, sont OK avec la technologie, parce que ça a été fondé sur ce postulat. Bien sûr, en France, avec les couches géographiques des cinq républiques et des centaines d'années de démocratie représentative, cela va poser un défi unique. C'est ce dont j'ai parlé un peu partout, avec des officiels, des législateurs, des professeurs. Nous avons quelques idées, mais je ne pense pas que nous ayons une solution complète pour l'instant.
Et qu'est-ce que c'est les idées, alors ?
Si nous pouvons rendre le débat et la discussion politique plus intéressant que de regarder la télévision, que d'aller sur Facebook, que de prendre des photos avec des selfie sticks, alors c'est possible d'impliquer les jeunes qui ont été élevés en tant que digital natives. Il y a cette émission que j'ai aidé à produire à Taïwan, appelée Talk to Taiwan. C'est une des pistes auxquelles nous pensons. Dans l'émission, captée en réalité virtuelle, on interviewe par exemple le maire indépendant qui a commencé en tant que chef chirurgien. C'est un chirurgien réputé et le système d'assurance santé lui tient très à cœur. Comme ce qu'on peut voir à la télévision française, un journaliste renommé lui pose des questions à propos du système d'assurance maladie pour savoir ce qu'il en pense. La différence, c'est que le programme n'est pas écrit par le média. Le programme est crowdsourcé grâce à un système en ligne, Polis, où tout le monde peut partager ses opinions, ses réflexions, ses expériences avec le système de santé. Une intelligence artificielle en fait la synthèse pour en tirer des questions concrètes que les journalistes peuvent ensuite poser au maire ou au chirurgien. Pendant ce temps-là, les gens qui regardent l'émission à travers un casque, une boîte en carton ou simplement sur YouTube peuvent poser leurs questions. Ces questions sont de nouveau synthétisées en temps réel de façon à ce qu'elles apparaissent sur l'écran à côté de l'invité pour qu'il puisse y répondre point par point. Ça devient un vrai débat d'une personne face à une foule, mais ça fonctionne très bien et vous pouvez revivre l'expérience à tout moment en utilisant un casque de réalité virtuelle. Nous avons trouvé que dans ces conditions d'enregistrement, les gens ne parlent pas à la caméra. Ils sont conscients de leur langage corporel, comment ils réagissent à l'environnement, si le public sourit à leurs blagues ou pas, et savent que tout ça est enregistré. Du coup, ils consacrent leur attention à former des liens et à discuter avec la pièce entière et non à devenir des démagogues ou des idéologues qui parlent juste à la caméra. Ils changent vraiment la nature et le ton des discours politiques. À partir du moment où le ton des politiciens change, les citoyens commencent à voir que ça vaut le coup de dialoguer. Sinon, ce sont juste des personnes ennuyeuses avec qui on n'aurait pas envie de prendre un café pour discuter.
Et qu'est-ce que c'est l'idée ? Pourquoi avoir un journaliste qui pose les questions dans ce cas-là ? Pourquoi ne pas avoir une machine qui poserait les questions, puisque le journaliste ne prépare pas les questions, il est juste le porte-parole ?
Aujourd'hui, un journaliste fait beaucoup, beaucoup de travaux différents. Il collecte, analyse des données, il établit l'ordre du jour, il s'occupe de la diffusion, il doit même apprendre un peu de codage pour le site web et savoir utiliser des services comme SoundCloud ou YouTube. Mais je pense que c'est comme ça parce que nous ne sommes pas encore dans une société à Taïwan qui donne aux journalistes un rôle central. Parce que toutes ces tâches que j'ai évoquées sont juste des impératifs sans lesquels le journaliste ne peut pas faire son travail dans un monde numérique. Mais en supposant que tout cela soit pris en charge, comme dans le modèle GovZero où ce sont les experts de toutes ces industries qui s'en occupent, alors tout ce qui reste aux journalistes, c'est le point de vue. On dit toujours qu'un point de vue vaut peut-être 20 points d'intelligence ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il est possible pour le journaliste, en tant que narrateur professionnel, storyteller professionnel, de réorganiser et de redéfinir toutes ces questions crowdsourcées en un point de vue très cohérent et d'essayer et de fusionner cette vue avec la vision de l'architecte, du maire ou de l'urbaniste. Et quand le journaliste réagit de manière non verbale à la personne qui parle, on peut voir que la compréhension entre eux est vraiment magique. Quand ça arrive, le public entier et les gens en réalité virtuelle participent aussi à cette compréhension. Une machine de synthèse vocale n'en est pas à ce niveau. Je pense que ça va prendre encore 10 ans, peut-être.
Quand la science-fiction décrit l'utilisation des technologies et de la réalité virtuelle en politique ou pour la démocratie, on a souvent un résultat qui est à la fois une sorte de paradis mais aussi une sorte d'enfer. Qu'est-ce qui vous rend confiante dans le fait que ça va évoluer vers quelque chose de positif en utilisant la réalité virtuelle et les technologies dans un cadre politique ?
La science-fiction reflète le jour où la science-fiction a été écrite. L'époque, chez Arthur C. Clarke ou Isaac Asimov, est en fait très différente de celle, par exemple, du cycle de la culture écrit par Ian Banks. Le cycle de la culture est bien sûr très différent de Dune, de Frank Herbert, et tous deux sont très différents de The Three Body Problem. Quand vous dites science-fiction, pour moi, cela reflète en fait la vie et la civilisation dans laquelle l'auteur a été élevé. La science-fiction offre des perspectives différentes, pour moi, pour cette civilisation. Par exemple, la série The Three Body Problem, écrite par Liu Cixin, est généralement considérée comme le chef-d'œuvre de la science-fiction chinoise. Cette série a eu un impact important sur la Chine, entre la révolution culturelle et aujourd'hui. Un des postulats principaux de The Three Body Problem était que la révolution culturelle divisait si profondément la population que les gens finissaient par penser que même un étranger était plus proche ou même plus sympathique que leurs concitoyens. La situation était devenue aussi grave que ça. C'est ça le postulat sous-jacent. Ma réponse à votre question, c'est qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde où les gens s'éloigneraient volontairement les uns des autres, juste pour une différence idéologique mineure. Il y a des gens qui sont des idéologues très stricts, mais on ne peut pas dire qu'ils soient au niveau de Mao Tse-dong, de toute évidence. Autrement, nous n'aurions même pas cette conversation en ce moment. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens se sentent suffisamment en sécurité pour innover. Grâce à cette sécurité relative, on a par exemple Google DeepMind, une intelligence artificielle qui peut jouer au jeu de Go de manière très créative, très belle même. Un joueur de Go, Lee Sedol, a été contraint de jouer un des plus beaux tours de sa vie pour gagner contre une machine. Le fait que ce tour ait été joué sans rien demander à personne, sans rien vendre, acheter ou échanger, transcende la victoire ou la défaite. La machine s'est complètement effondrée parce qu'elle ne pouvait pas prévoir qu'un humain jouerait comme ça. Ce qui est d'une pure beauté. Comme tout le monde se sent en sécurité, ces innovations sont montrées en public. Elles donnent lieu à des publications dans des journaux comme Nature, et cela permet à ceux qui travaillent sur l'intelligence artificielle de réorienter leurs recherches grâce à des découvertes partagées librement. Facebook et d'autres entreprises participent aussi à cette culture de libre partage, open source, dans laquelle n'importe quelle petite innovation rejoint ensuite un corpus scientifique, technologique et créatif plus large. C'est ce qui me donne espoir, parce que dans un régime plus autoritaire, il est évident que les personnes à l'origine de telles innovations les accumuleraient, les garderaient pour elles-mêmes et ne les partageraient pas. Le fait que nous voyons tout le monde développer la réalité virtuelle, comme c'est le cas de Mozilla VR, d'OpenVR ou d'OpenAI, par exemple, avec une telle transparence et une telle ouverture, témoigne du fait que les gens se sentent suffisamment en sécurité pour que le reste de la société participe à son tour.
Et au même moment, je ne sais pas si il y a un rapport avec ce que vous venez de dire, on a de grandes démocraties qui sont en train de développer des robots tueurs, c'est-à-dire des appareils qui font de la reconnaissance faciale et qui tuent sans l'ordre direct d'un être humain. Qu'est-ce que ça a comme rapport avec ce que vous décrivez, ça ?
Si on compare les drones avec les pilotes kamikazes, par exemple, qui sont entraînés d'une manière très similaire, presque robotique, mais avec l'idéologie en plus, il n'y a pas tant de différence que ça quand vous les voyez depuis l'extérieur de l'avion. C'est très dur de dire lequel est piloté par l'homme et lequel est télécommandé ou même maître de soi. Je ne pense pas que les technologies modernes aient tant changé la guerre que ça. Tout ce qu'elles ont changé, c'est que le pilote, qui commande le drone, survit désormais, avec un syndrome de stress post-traumatique, n'est-ce pas ? Mais ça ne change rien aux missions, ou à la guerre, ou à quoi que ce soit. Je ne pense pas que ça soit vraiment relié. Je suis heureuse d'avoir cette conversation, mais je ne pense pas que ce soit la même chose.
Vous venez régulièrement en France, vous avez même été l'invité du ministère des Affaires étrangères lors de la Nuit des Idées. Est-ce que vous regardez la vie politique législative française ? Il y a eu plusieurs lois ces derniers temps qui ont été jugées liberticides, et particulièrement pour les nouvelles technologies, pour l'Internet. Qu'est-ce que c'est votre regard sur ça ?
C'est trop tôt pour moi pour dire quoi que ce soit de définitif. Mais le sentiment que j'ai de la société française est que vous avez une machine extrêmement bien entraînée, la République. Les gens voient bien que quand ils rapportent leurs problèmes locaux ou leurs inquiétudes concernant un lieu spécifique à une association locale ou à un représentant local, ça se règle généralement. C'est une machine très bien huilée, comme on dit. L'inconvénient, c'est bien sûr que les gens manquent de surprise ou de curiosité. De cette découverte de dire « le gouvernement est trop inefficace, et si nous le faisions nous-mêmes ?» Les révolutionnaires précoces sont les esprits réformateurs. Il y a de la place pour une machine très bien huilée qui soit efficace. Mais il y a aussi une place pour une nouvelle, je ne dirais même pas machine, mais bel et bien un nouveau système qui crée du consensus. Dans la culture d'Asie du Sud-Est, on met toujours l'accent sur le consensus, en disant disant que ce n'est pas bon d'oublier presque la moitié des gens quand on prend une décision. On peut laisser, disons, 5% des gens derrière, et c'est peut-être déjà trop. On doit mettre tout le monde d'accord. C'est pourquoi Taïwan doit encore plus à la culture japonaise qu'à la culture chinoise. Venant de cette culture, je trouve ça très intéressant que certains Français s'accrochent aux idéologies parce qu'ils savent que 55% de la population est d'accord avec eux. Ils se contentent de ça. Ils n'essaient pas de faire des concessions pour convaincre les 45% de gens restants. Mon expérience en tant que médiatrice du débat Uber m'a appris que les partis politiques traditionnels fonctionnent très bien pour les questions domestiques. Mais pour les questions transnationales, les questions mondiales comme Uber, convaincre même 55% de la population n'est pas suffisant. Parce qu'ils opèrent dans une dimension très différente. Ils peuvent à tout moment amplifier l'avis de seulement 5% de la population pour qu'ils dominent l'agenda des discussions politiques. Nous sommes face à des tendances, des pays et des pouvoirs transnationaux. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire pour la population entière de dire « Si tous les chauffeurs se mettent d'accord sur Uber, il y a une vraie chance qu'Uber ne puisse plus recruter de conducteurs. » Mais si les gens se contentent de cette vieille rhétorique partisane, alors il y aura toujours une minorité, une très large minorité, qui pourra être utilisée à l'avantage de ces pouvoirs transnationaux et post-démocratiques. Voilà ce que j'en pense pour l'instant.
Et qu'est-ce que c'est votre vision de la Chine ? Pendant longtemps, on a pensé que le développement économique était une source de développement démocratique. On a également pensé en parallèle que le développement technologique, notamment l'arrivée d'Internet, était aussi un développement démocratique. Alors qu'en Chine, même s'il y a des changements, des évolutions, on ne voit pas de développement démocratique très très fort. Le parti est encore au centre du pouvoir, le parti communiste est encore au centre du pouvoir, malgré le développement économique et le développement technologique. Qu'est-ce que c'est votre regard sur ça?
Eh bien, je pense que tout est relatif. Si vous regardez la révolution culturelle, la confiance mutuelle et la solidarité des gens étaient probablement à leur point le plus bas dans l'histoire humaine. Juste comparable aux guerres mondiales et à rien d'autre. Dans ce cas, bien sûr, tout s'améliore. Mais je pense que dans ce siècle, la Chine va vraiment devoir faire face à la disparition finale du travail. Parce que tout le travail de routine est déjà effectué par des robots. On verra très vite, dans un an ou deux à peine, que même le travail manuel créatif et non routinier se fera remplacer par des robots. Et après ça, le travail cognitif aussi. Quand la Chine arrêtera d'être cette manufacture du monde, quand toute la force de travail deviendra mobile et que l'industrie sera organisée en réseau, alors la raison d'être de la structure de contrôle du régime chinois devra être repensée, parce que l'industrie et l'économie existante qui supporte ce genre de régime ne fonctionnera plus. Je suis très étrangère à l'administration chinoise, je ne suis pas leur dernier développement. Je vois ce qu'ils en disent dans leurs communiqués de presse, mais je n'entends pas ce qu'ils disent dans leurs réunions internes, donc je ne ferai pas de prédictions. Mais c'est un problème auquel la Chine, plus que n'importe quel autre endroit dans le monde, devra faire face.
Pour conclure, qu'est-ce que c'est vos attentes ? Vous venez de parler de la disparition du travail salarié pour la Chine, mais c'est quelque chose qui se développe dans le monde entier. Et finalement, l'image que vous donnez de citoyens qui décident communément à travers la réalité virtuelle du monde futur, alors qu'ils n'ont plus de travail, que le travail n'existe plus. Enfin, c'est tellement loin des valeurs actuelles et des valeurs dans lesquelles on a grandi qu'on a du mal à se figurer ça de manière positive. Qu'est-ce que c'est, vous ? Comment vous voyez ce futur ?
Je ne pense pas que ça soit si différent. Les valeurs françaises sont toujours intactes. On fait toujours l'expérience du monde réel avec nos corps, et nous avons nos émotions, de l'imagination que nous traduisons en art et que nous partageons librement. C'est ça, la liberté. Dans l'open source ou dans le logiciel libre ou dans l'open culture, on a aussi ce principe d'égalité qui fait que toute contribution, quelle qu'elle soit, doit être accessible à tous les autres citoyens. Cette solidarité, comme je viens de la décrire, s'applique aussi à la discrétion générale ou le respect mutuel des espaces en ligne, qui ne pourront grandir qu'à partir du moment où nous arrêterons de nous cantonner à du texte sur Internet. Quand notre avatar ou de l'information non verbale entreront en jeu, Internet sera bien plus orienté sur la solidarité. Ce que je veux dire, c'est que les valeurs fondamentales de la France ne sont pas touchées par cette évolution de la technologie. C'est juste une configuration qui change. Ça peut nous renvoyer à l'origine de la démocratie, vous savez, dans les îles grecques ou ioniques, aux cités-états et à la police, où ils faisaient faire tout le travail aux esclaves et où les propriétaires d'esclaves, aujourd'hui les humains, faisaient leur création, leur philosophie ou je ne sais quoi d'autre. C'était un âge d'or pour la civilisation humaine.
Et vous voulez dire par là que les esclaves du passé, ce seraient les robots aujourd'hui ?
C'est déjà le cas.
Merci Audrey Tang d'avoir répondu à nos questions. On retrouvera sur l'atelier des médias la version originale et la version longue traduite de cet entretien, ainsi que des liens, des informations complémentaires et peut-être les nombreux dessins que vous avez réalisés pendant notre entretien. À bientôt.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr
C'était l'Atelier des médias, merci de votre fidélité. Une émission, un projet, un atelier signé Mathias Virilli, mention spéciale pour le travail de traduction. Manon Mella qui a prêté sa voix à Audrey Tang, Camille Deloche, Simon Decreuse et Suzy Georges. Salut à toutes et à tous.